Les pluies d'hiver commencèrent et toute l'île se mit à sentir la terre. J'adorais cette saison, les sables froids, la floraison des hélébores blancs. Ulysse s'était remplumé, il ne grimaçait plus à chaque mouvement. Ses accès de mauvaise humeur avaient diminué. J'essayais d'y trouver de la satisfaction. C'était comme de voir un jardin bien entretenu, pensais-je. Comme de regarder les agneaux nouveau-nés se mettre debout d'un pas tremblotant. Les hommes restaient à proximité de la maison, buvant pour se réchauffer. Pour les distraire, Ulysse leur racontait des histoires d'Achille, d'Ajax, de Diomède, les faisant revivre dans l'air crépusculaire et accomplir leurs glorieux exploits. Ses compagnons étaient captivés, l'air émerveillé. « Souvenez-vous, » murmurait-il avec admiration, « nous avons marché parmi eux. Nous avons combattu Hector. Nos fils raconteront cette histoire. » Il souriait de leurs commentaires comme un père indulgent, mais ce soir-là, il se moqua d'eux. Ils étaient tout aussi incapables de combattre Hector que de voler. N'importe quel homme doté d'un cerveau prenait la fuite en l'apercevant. « Toi aussi ?»« Bien sûr. Ajax faisait à peine le poids contre lui, et seul Achille aurait pu le vaincre. Je suis un guerrier plutôt valeureux, mais je connais mes limites. » C'était vrai, songeais-je. Tant d'entre eux fermaient les yeux en fantasmant sur la force qu'ils auraient voulu avoir. Mais chez lui, tout était cartographié et étudié, chaque pierre et chaque monticule répertorié avec lucidité et précision. Il mesurait scrupuleusement ses talents. Un jour, j'ai rencontré Hector. C'était au début de la guerre, quand nous prétendions encore qu'il pourrait y avoir une trêve. Bien qu'il soit assis près de son père, Priam, sur un tabouret branlant, on aurait dit que c'était un trône. Il ne resplendissait pas comme l'or. Il n'était pas lisse ni parfait. En revanche, il était homogène, pareil à un bloc de marbre découpé entier dans une carrière. Sa femme Andromaque nous a versé du vin. Plus tard, nous avons appris qu'elle lui avait donné un fils, Astyanax, qui règne sur la cité. Mais Hector l'a appelé Scamandrios, d'après la rivière qui traverse Troie. Il y avait quelque chose dans sa voix. Que lui est-il arrivé ? Ce qui arrive à tous les fils en temps de guerre. Achille a tué Hector, et ensuite, quand le fils d'Achille, Pyrrhus, est entré en trombe dans le palais, il a saisi le bébé, Astyanax, et lui a fracassé le crâne. C'était horrible, comme tout ce que faisait Pyrrhus. Mais c'était nécessaire. Cet enfant aurait grandi avec une lame dans le cœur. Le devoir suprême d'un fils est de venger son père. S'il avait vécu, il aurait rallié des hommes à sa cause et s'en serait pris à nous. Derrière la fenêtre, la lune avait rétréci en un mince croissant. Il était silencieux, tournant et retournant ses pensées dans sa tête. C'est étrange que cette idée me réconforte autant. De me dire que, si je suis tué, mon fils prendra la mer, qu'il traquera les hommes qui m'auront mis à terre, qu'il se plantera devant eux en disant « Tu as répandu le sang d'Ulysse et maintenant, le tien va être répandu à ton tour. » La pièce était calme. Il était tard et les chouettes avaient regagné leurs arbres depuis longtemps. « Comment était-il, ton fils ?» Il se frotta la base du pouce, à l'endroit où le poinçon l'avait blessé. « Nous l'avons appelé Télémaque, à cause de mes qualités d'archer. » Ce nom signifiait « qui combat au loin ». Mais le plus drôle, c'est que le premier jour de sa vie, il a hurlé sans relâche comme s'il se trouvait au milieu d'un champ de bataille. Les femmes ont essayé tous les trucs de leur connaissance. Le bercer, marcher, lui bander les bras, lui donner un pouce mouillé de vin à sucer. La sage-femme a dit qu'elle n'avait jamais vu un tel tempérament. Même mon ancienne nourrice se bouchait les oreilles. Mon épouse était blanche comme un linge, persuadée qu'il avait quelque chose d'anormal. « Donne-le-moi, » ai-je ordonné. Je l'ai tenu à bout de bras, en regardant son visage hurlant. « Mon gentil fils, tu as raison. Ce monde est un endroit sauvage et terrible. Il mérite tes cris. » Mais tu es en sécurité pour l'instant et nous avons tous besoin de dormir. Alors vas-tu nous laisser un peu tranquilles ? et il s'est calmé. Il s'est simplement tu dans mes bras. Ensuite, c'est devenu l'enfant le plus facile du monde. Il était toujours en train de sourire et de rire avec tous ceux qui s'arrêtaient pour lui parler. Les servantes inventaient des excuses pour venir pincer ses joues rondes. « Quel roi ce sera un jour ! » s'exclamait-elle. « Aussi doux que le vent d'ouest, oh là là !» Il continua à égrener ses souvenirs. La première bouchée de pain de Télémaque, son premier mot, son amour des chèvres et sa façon de se cacher derrière les chaises en gloussant pour qu'on le trouve. Il a davantage à raconter sur son fils en une année que mon père n'en a sur moi pour l'éternité, pensais-je. Je sais que sa mère s'assurera que je reste présent dans son esprit, mais à son âge, je dirigeais les chasses. J'avais tué un sanglier moi-même. J'espère juste qu'il me restera quelque chose à lui enseigner à mon retour. J'ai envie de laisser mon empreinte en lui. Je suis sûre que je répondis quelque chose de vague et de rassurant. Tu laisseras ton empreinte en lui. Tous les garçons veulent un père, il t'attendra. Néanmoins, je songeais de nouveau à l'inexorabilité des vies mortelles. Alors même que nous parlions, les instants passaient. Ce gentil bébé avait disparu. Son fils prenait de l'âge, grandissait, s'affûtait pour devenir un homme. Il y avait 13 ans qu'Ulysse l'avait perdu de vue. Combien d'années s'écouleraient encore ? Mes pensées revinrent souvent à ce garçon vigilant, au regard calme. Savait-il ce que son père attendait de lui ? Ressentait-il le poids de ses espoirs ? Je l'imaginais debout sur les falaises, jour après jour, priant pour l'arrivée d'un navire. J'imaginais sa lassitude, son chagrin intime et sourd avant d'aller se coucher le soir, blotti dans son lit comme il s'était jadis blotti dans les bras de son père. Je mis mes mains en coupe dans le noir. Je n'avais pas 1000 tours à ma disposition. Je n'étais pas une étoile fixe, mais pour la première fois, je sentis quelque chose germer au creux de cet espace. Un espoir, une respiration vivante qui pourrait encore grandir au milieu.